Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Si vous voulez, aujourd'hui, regardons l'épître de cette messe du 17e dimanche après la Pentecôte. L'épître de cette messe est tiré de la lettre de saint Paul aux Éphésiens. L'épître aux Éphésiens, c'est l'une des quatre épîtres dites de la captivité. Vous savez en effet que saint Paul, au retour de son troisième voyage missionnaire, quand il revint à Jérusalem, faillit être lapidé par les Juifs qui étaient furieux contre lui. Alors pour le soustraire à cette foule, les soldats romains l'arrêtèrent et le conduisirent auprès du procureur à Césarée, où il resta 2 ans prisonnier. Et comme il fit appel à César, il fut conduit à Rome sous la garde d'un centurion romain pour y être jugé. Et au terme d'un voyage plein de péripéties, les Actes des Apôtres nous racontent cela, saint Paul fit un naufrage, il rejoignit Rome et fut assigné à résidence en attendant son procès. Il était donc prisonnier, mais il pouvait néanmoins recevoir les chrétiens qui venaient le voir, il pouvait exercer un certain apostolat, et c'est de là qu'il écrivit les 4 lettres aux Colossiens, à Philémon, aux Éphésiens et aux Philippiens, avant d'être finalement libéré au bout de 2 ans, en l'an 62. La communauté d'Éphèse, à laquelle s'adresse la lettre, était l'une des églises pour laquelle saint Paul s'était le plus dépensé. Il avait séjourné environ 3 ans dans cette ville. C'était une grande ville cosmopolite, la capitale de la province d'Asie mineure. Et la communauté chrétienne d'Éphèse était devenue une chrétienté florissante. Quel est le but de la lettre de saint Paul? Il veut prévenir les erreurs gnostiques naissantes qui menaçaient de diviser la jeune chrétienté. C'est pour ça que saint Paul, dans cette lettre, insiste sur l'unité que doivent garder les chrétiens. On a dit de l'épître aux Éphésiens qu'elle était l'épître de l'unité. Et saint Paul fonde cette unité sur 2 choses, 2 fondements. D'abord le Christ, unique rédempteur de tous, en qui tout est récapitulé. Vous savez que c'est dans cette épître que se trouve la fameuse formule que saint Pidis a choisie comme sa devise, « Omnia instaurare in Christo », tout récapitulé dans le Christ. Et saint Paul insiste également sur un autre fondement. L'unité est fondée aussi sur l'Église, le corps mystique du Christ, l'unique arche de salut qui réunit en elle tous les chrétiens sans distinction, qu'ils soient issus du judaïsme ou du paganisme. Et après avoir expliqué tout cela, saint Paul aborde les applications morales, comme il le fait habituellement dans ses épîtres, et il montre que cette unité dans le Christ et avec le Christ, dans l'Église, cette unité doit régner aussi parmi les fidèles. Et c'est à cet endroit que se place le passage choisi pour former l'épître de ce 17e dimanche après la Pentecôte. Alors que dit saint Paul aux chrétiens d'Éphèse à cet endroit? Il leur dit qu'il faut maintenir l'unité. Relisons, si vous voulez, les quelques phrases que saint Paul adresse aux Éphésiens à cet égard. Je vous conjure instamment, moi qui suis prisonnier dans le Seigneur, de vous conduire d'une manière digne de la vocation à laquelle vous avez été appelés, pratiquant en toutes choses l'humilité, la douceur, la patience, vous supportant les uns les autres avec charité et travaillant avec soin à garder l'unité d'esprit par le lien de la paix. Car il n'y a qu'un seul corps, qu'un seul esprit, de même que vous avez été appelé à une seule et même espérance. Pour toucher plus efficacement ses correspondants, vous voyez que saint Paul les conjure et il leur rappelle qu'il est dans les chaînes. Les Éphésiens ne pouvaient pas rester indifférents en sachant saint Paul prisonnier pour la cause et pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez que saint Paul ne s'est pas contenté de prêcher, de parler. Il a largement payé de sa personne. Et c'est ça qui le rend si convaincant, si crédible. Et tout de suite, selon son habitude, saint Paul place l'idéal très haut. il va directement aux motifs les plus élevés. Vous devez vous conduire d'une manière digne de la vocation à laquelle vous avez été appelé. À quelle vocation ? De quelle vocation s'agit-il ? À quoi ont-ils été appelés ? Et à quoi avons-nous nous-mêmes été appelés ? Eh bien, nous avons été appelés, élevés à l'ordre surnaturel, par une grâce insigne de Dieu. Nous sommes concitoyens des saints, serviteurs de Dieu, frères de Jésus-Christ, rachetés par son sang. Saint Paul ne dit pas tout cela à cet endroit, mais il le dit ailleurs. Ou comme le dit encore Saint Pierre, « Vous étiez ténèbres et vous avez été appelés à son admirable lumière. » Voilà notre vocation, voilà ce à quoi nous sommes appelés. Et alors, du coup, quel est le comportement digne de cette vocation ? Quel est le comportement que nous devons avoir grâce auquel nous pourrons garder l'unité entre nous ? Que faut-il faire ? Et ici, saint Paul indique quatre vertus qu'il énonce l'une après l'autre. Les vertus qui précisément s'opposent aux vices qui provoquent la désunion. Comment la désunion peut-elle se faire ? Quels sont les vices porteurs de zizanie ? Eh bien, il y a d'abord l'orgueil. L'orgueilleux ne veut pas se soumettre. Il veut l'emporter sur les autres. Et cela crée forcément la dissension. Alors saint Paul dit aux Éphésiens, « Pratiquez l'humilité, pour qu'il y ait l'unité entre nous, dans l'Église, dans nos familles, partout, dans toutes les sociétés où nous nous trouvons, il faut pratiquer l'humilité. » L'orgueil est destructeur. Le deuxième vice qui détruit l'unité, c'est la colère. L'homme en colère provoque la querelle. Et c'est pour cela que saint Paul encourage les Éphésiens à la douceur qui est le contraire de la colère et qui apaise toutes les querelles. Le troisième vice qui provoque la désunion, c'est l'impatience. L'impatience détruit l'unité, elle amène le trouble, l'agitation, l'énervement. Alors saint Paul encourage à la patience. Dans toute société, il faut être patient. Les choses ne peuvent pas se faire d'un coup, il faut du temps. Dieu agit dans le temps. Et puis enfin, le quatrième vice qui est source de division, c'est le zèle immodéré, l'esprit critique, les reproches amers faits au prochain à tout propos. Et derrière ces reproches, souvent, il y a beaucoup d'orgueil. Alors saint Paul ajoute, « Vous supportant mutuellement avec charité. » Il faut supporter réciproquement nos défauts, et cela par charité, pas par nécessité. Pas parce qu'il faut bien le faire, mais par charité. Voilà donc les vertus nécessaires pour conserver l'unité. Et cette unité, saint Paul nous dit juste après, qu'elle est l'unité d'esprit. L'unité à laquelle saint Paul convie ses correspondants, c'est l'unité d'esprit, c'est-à-dire l'unité des âmes, l'unité des pensées et des sentiments, l'unité de la foi, celle qui est fondée sur la vérité et sur la charité, et non pas l'union factice, fragile, fondée sur la complicité, l'erreur ou le seul intérêt. Les brigands peuvent être unis entre eux, mais c'est une fausse unité, c'est une union temporaire et uniquement fondée sur l'intérêt. Et c'est pourquoi saint Paul précise que cette unité doit être maintenue par le lien de la paix. C'est la seule manière de conserver l'unité véritable. Qu'est-ce que ça signifie, ce lien de la paix ? Saint Thomas, dans le commentaire qu'il a consacré à ce petit passage, dit que la paix, ici, doit être comprise comme l'a défini saint Augustin, la tranquillité de l'ordre. C'est-à-dire que chacun doit jouir de ce qui est sien et agir comme il le doit, selon la justice. Alors, tout est en paix, tout est en ordre, chaque chose est à sa place. Et donc, tout est lié. Tout est maintenu comme il faut, tout est un, il n'y a pas de désordre. Et alors, pour terminer son petit exposé, saint Paul va prendre une image, l'image du corps. Et cette image, vous le savez, est devenue très classique. On dit de l'Église qu'elle est le corps mystique du Christ, c'est saint Paul précisément qui le dit. L'image du corps est très parlante. Comme les membres de l'organisme physique sont unis entre eux pour ne former qu'un seul tout, un seul corps, et bien de même, les chrétiens sont liés entre eux pour ne former qu'une seule société, cette société qu'on appelle l'Église, qui est une, sainte, catholique et apostolique. L'Église est un corps. C'est une image, mais c'est une image qui est très parlante. Et ce corps est animé par un seul esprit, continue saint Paul. Cet esprit, c'est l'Esprit Saint, évidemment. L'Esprit Saint qui est à l'Église, ce que l'âme est au corps. Le corps est animé par son âme. Il ne pourrait pas vivre si l'âme n'était pas présente. De la même manière, l'Église vit par le Saint-Esprit. Et la raison pour laquelle nous devons marcher ainsi, unis, conduits par le Saint-Esprit, dans un même corps, c'est que nous sommes appelés à un même terme, à un même but, à la même récompense finale, la vie du ciel. Et la vie chrétienne est comme une marche, et tous nous marchons sur le même chemin, à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ, pour rejoindre le ciel qui est notre espérance. De même que les soldats restent unis pour marcher vers la même victoire, s'ils se désunissent, il n'y aura pas de victoire possible. Et bien de même, les chrétiens marchent unis dans l'espérance du salut éternel, et s'ils ne sont pas unis dans la même Église, eh bien ils ne pourront jamais obtenir la récompense du ciel. L'Église est l'arche du salut. Il n'y en a pas d'autre. Hors de l'Église, point de salut. Alors, parvenu à ce point, saint Paul, dont vous voyez que ses propos sont très denses, en très peu de mots, il dit beaucoup de choses. Saint Paul récapitule son propos et va nous exposer précisément ce qui fait l'unité de l'Église. Quels sont les fondements d'où l'Église tire son unité? En quoi l'Église est-elle une? Et il dit, il y a quatre raisons, quatre fondements. L'Église est une parce qu'elle a un seul chef, notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est une parce qu'elle a une seule loi, la foi. Elle est une parce qu'elle a les mêmes signes de ralliement, les sacrements. Les mêmes sacrements pour tous les catholiques. Et enfin, elle est une parce qu'elle a une seule fin ultime, qui est Dieu. Il n'y a qu'un seul chef dans l'Église, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est son chef invisible, et le pape qui est le vicaire visible de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais l'Église est l'Église de notre Seigneur, elle n'est pas l'Église du pape. Le pape est tout entier au service de notre Seigneur Jésus-Christ. S'il y avait plusieurs chefs, il y aurait diverses volontés, et ça deviendrait un sujet de discorde. C'est le cas, par exemple, dans l'orthodoxie. Vous savez que l'orthodoxie, même si elle reconnaît, bien sûr, notre Seigneur Jésus-Christ comme Fils de Dieu, l'orthodoxie, néanmoins, est organisée en une multitude d'obédiences et de patriarcats autonomes, si bien qu'il n'y a pas d'unité. C'est une Église schismatique. Il y a dans l'Église une seule loi, c'est la foi. La foi contenue dans le symbole des apôtres. Et cette foi, nous comprenons que c'est ce qui fait la différence entre l'Église catholique et toutes les confessions hérétiques, notamment les protestants. Les protestants ne croient pas tous aux mêmes vérités. Et du coup, c'est l'éparpillement en une multitude de sectes concurrentes. On a dit qu'il y avait autant de sectes protestantes qu'il y a de protestants. C'est vrai. Dans l'Église, il n'y a qu'un seul baptême. Saint Paul parle uniquement du baptême, mais le baptême ici désigne les sacrements. L'unité de l'Église vient de l'unité des sept sacrements. Et saint Paul cite le baptême parce que le baptême vient en premier, il est la porte de tous les sacrements. C'est le baptême qui confère la grâce, qui fait entrer dans l'Église, qui nous incorpore à l'Église, et c'est la raison pour laquelle saint Paul ne nomme que ce sacrement-là. Mais évidemment, il inclut tous les autres. Et puis enfin, il n'y a dans l'Église qu'une même fin, qui est Dieu, Père de tous les chrétiens, Dieu qui est au-dessus de tous, parce qu'il est Dieu précisément, il est maître souverain, qui agit par tous et qui habite en tous par sa puissance et par sa grâce. Et si on s'écarte de l'une de ces quatre choses, eh bien on perd l'unité. Alors pour terminer, vous aurez senti sans doute à quel point cette unité que saint Paul nous recommande n'a rien à voir avec l'unité dont on nous rebat les oreilles aujourd'hui. L'unité qu'on nous prêche aujourd'hui, dont on nous dit qu'elle est en quelque sorte la vertu essentielle, le but principal vers lequel l'Église doit tendre, cette unité n'est pas fondée sur la vérité. D'une certaine manière, elle lui est même supérieure. C'est la vérité qui doit être au service de l'unité, ce qui est un renversement total. L'unité devient un absolu auquel la vérité et la foi doivent se soumettre. On nous dit « les chrétiens sont désunis ». C'était même le titre d'un livre du père Congar. Les chrétiens se sont séparés de l'Église du Christ. Tous les chrétiens, aussi bien les catholiques que les protestants et les orthodoxes. Tous ont des torts, les torts sont partagés. Donc finalement, l'image qui est retenue, c'est comme l'image d'un grand arbre avec plusieurs branches. Et ces branches sont toutes séparées les unes des autres, ce qui les unit, c'est uniquement le fait de dépendre du même tronc. Alors nous dit-on, c'est un scandale. Cette désunion des chrétiens est un scandale. Il faut refaire l'unité, comme notre Seigneur lui-même nous y invite. Ut unum sint, c'est une parole tirée de l'évangile de Saint Jean qu'on trouve dans la prière sacerdotale de notre Seigneur. Et vous savez que le pape Jean-Paul II en avait même fait le titre d'une de ses encycliques. Mais on fait un contresens sur cette parole. Quand notre Seigneur dit « ut unum sint » pour qu'ils soient un, il ne veut pas dire que l'Église catholique doit faire son unité. L'Église est une déjà. Alors comment va-t-on nous inviter à refaire cette unité détruite ? Eh bien en dialoguant. Il faut considérer ce qui nous unit plutôt que ce qui nous sépare. Vous avez sans doute entendu cette formule, elle est ressassée indéfiniment dans l'Église conciliaire. Pourquoi ? Ben parce qu'il y a des vérités dans toutes les confessions. Alors il faut s'enrichir mutuellement, être tolérant, s'écouter mutuellement, et ainsi on refera l'unité. C'est une grave erreur. Cette unité, à bon compte, est une unité au détriment de la vérité et de Dieu. C'est Dieu qui en fait les frais. En réalité, l'unité de l'Église n'est pas à faire. Entre l'Église catholique et l'Église du Christ, il n'y a pas de différence. L'Église du Christ, c'est l'Église catholique. Et les confessions qui se sont séparées de cette unité de l'Église du Christ, de cette unité de l'Église catholique, ce sont les protestants et les orthodoxes. L'Église catholique n'a pas de tort à cet égard. Elle est déjà une, c'est une de ses notes. Elle n'a pas à faire son unité. Cette unité existe. Et donc le véritable œcuménisme, c'est le retour à l'unité de l'Église catholique dont les orthodoxes et les protestants se sont séparés. Et c'est comme ça qu'on l'a toujours entendu dans tous les siècles. Il n'y a pas d'autre possibilité d'œcuménisme véritable. Alors ne nous laissons pas abuser par ce langage trompeur qui peut-être nous impressionner, dans l'impression que derrière cette recherche de l'unité, il y a beaucoup de charité. Encore une fois, c'est Dieu qui en fait les frais. C'est la vérité qui en fait les frais. Il ne peut pas y avoir d'unité véritable en dehors de la vérité. Toute unité qui ne se construit pas sur la vérité est factice et elle est vouée à la ruine. C'est l'image prise dans l'évangile de la maison construite sur le sable. Cette maison est vouée à la ruine dès qu'une tempête arrive. Alors prions Notre-Dame. Notre-Dame est le type de l'Église. Elle est mère de notre Seigneur, le seul vrai Dieu. Et donc Notre-Dame, assurément, ne peut pas imaginer un faux œcuménisme. Elle ne peut pas croire qu'il faille se réunir contre son Fils, contre la divinité de son propre Fils, contre la vérité qui est la vérité de l'Église catholique. C'est impossible. Donc demandons-lui qu'elle nous garde dans l'unité, qu'elle nous fasse comprendre en quoi consiste la véritable unité de l'Église et qu'elle nous préserve de tout ce langage mensonger qui, autour de nous aujourd'hui, est de plus en plus présent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.